frappé d'une question à laquelle je réponds tout de suite. Dans la mesure où le jugement affectif est un jugement portant sur l'ami, ne doit-on pas dire que c'est ce même ami qui est critère de vérité du jugement affectif ? Mais il est bien entendu que la connaissance de l'ami, critère de vérité, n'est possible qu'à travers l'amour. Donc, c'est l'ami qui est critère de vérité. Quoi ? L'amour n'étant que ce par quoi, quo, je le connais. C'est assez difficile à préciser ça. Parce que peut-on discerner et séparer amour et ami dans la connaissance affective ? Est-ce que ce n'est pas l'introduction, est-ce que ce n'est pas insérer à ce moment-là un jugement d'existence qui me fait porter sur l'ami ? Je vois ce qu'on veut dire, c'est que j'ai toujours dit que dans l'amour d'amitié se terminait à l'ami, et non pas à l'amour, c'est sûr. C'est très vrai que dans l'amour d'amitié, c'est l'ami qui est source pour moi de renouveau constant d'amour, et non pas l'amour que j'ai pour lui. Et que si je mesure l'amour que j'ai pour mon ami à l'amour qu'il a pour moi, c'est fatal pour l'amour d'amitié. Parce qu'un jour je dirai, il m'aime moins, donc je l'aime moins. Et l'autre dira, il m'aime moins, donc je l'aime moins. Et alors à partir de ce moment-là, c'est la diminution radicale qui se fait. Tandis qu'au contraire, si j'aime l'ami pour lui-même, indépendamment et au-delà, pas indépendamment, mais au-delà de l'amour qu'il a pour moi, à ce moment-là, l'ami reste vraiment un critère source d'amour pour moi. Ça, je crois que c'est facile à comprendre. Et ça fait comprendre le réalisme qui existe dans l'amour d'amitié. La question nouvelle posée, donc ce n'est pas l'amour de l'ami pour moi qui est la mesure, ou qui est, disons pas la mesure, qui est l'objet, ce qui spécifie mon amour, mais l'ami. C'est lui que j'aime en premier lieu. La question posée, c'était de savoir quelle était la vérité qui existait dans un jugement affectif. Dans un jugement affectif, prenons un jugement affectif. Prenons un exemple d'un jugement affectif. Pierre, mon ami, est intelligent. J'ai tout à fait le droit de dire ça. Pierre, mon ami, est intelligent. Il est intelligent en tant qu'il est mon ami. Je découvre son intelligence en tant qu'il est mon ami. Il y aura à côté de moi Jacques, qui dira « Pierre n'est pas mon ami » et je t'affirme, il n'est pas très intelligent. C'est ce qu'on voit tout le temps. Toutes les relations qui peuvent exister entre nous, c'est comme ça. Dès que nous aimons quelqu'un, nous le trouvons intelligent. Et quand nous l'aimons plus, nous le trouvons moins intelligent. C'est très rare qu'on puisse dire, alors je ne mets pas de nom, mais on pourrait mettre des noms, n'est-ce pas ? Très facile à comprendre, je ne peux pas supporter telle personne, mais il faut reconnaître qu'il est quand même intelligent. Ça peut arriver, ça. Je reconnais qu'il est intelligent, mais je ne peux pas le supporter. Je ne sais pas pour de telle ou telle raison. Donc il n'est pas mon ami, mais je reconnais qu'il est intelligent. Donc ça fait deux jugements tout à fait différents. Le jugement affectif, c'est à l'intérieur de l'amour que j'ai pour tel Pierre. Et ce jugement affectif porte non pas sur l'existence de l'ami, non pas sur l'existence de cet amour, mais sur tel ou tel jugement que je porte sur lui. Vous comprenez qu'à ce moment-là, le critère de vérité demeure bien dans l'amour que j'ai pour mon ami. Il me sent. Et non pas l'ami, au sens strict. La mesure, c'est la connaissance affective est une connaissance qui est intersubjective. C'est ça le propre de la connaissance affective. Elle est intersubjective. Tandis que la source de mon amour est au-delà de la subjectivité de l'amour que j'ai pour lui, et c'est l'ami. Ce n'est pas la même chose. Mais le critère de vérité d'une connaissance affective demeure à l'intérieur de l'intersubjectivité, et donc à l'intérieur de cet amour mutuel qui existe entre les deux. Il me semble, mais je ne veux pas trop critiquer là-dessus, mais il me semble. C'est une petite nuance, et on a raison de le soulever. C'est une petite nuance. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que dans l'amour, dans le jugement affectif, qu'est-ce que c'est, où se loge la vérité? Où est la mesure d'un jugement affectif? Autrement dit, c'est ça la question. Posez la question comme ça. Quelle est la mesure d'un jugement affectif? Ça n'a pas été beaucoup traité, ces questions-là, donc... On est obligé, je ne dis pas qu'on peut soutenir alors aussi bien l'un que l'autre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, si on pouvait soutenir aussi bien l'un que l'autre, je dirais oui, oh, très bien, acceptez ça. Moi j'ai parlé de l'amour, vous parlez de l'ami, bon, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Autant je dirais que ce qui spécifie mon acte d'amour, c'est l'ami, et non pas l'amour qu'il a pour lui. Autant je dirais au niveau du legein, au niveau de mon jugement, affectif et la manière de dire de lui, ce n'est pas l'ami. C'est l'amour que j'ai pour lui. Et dans l'amour que j'ai pour lui, mon jugement affectif est vrai en fonction qu'il est conforme à cet amour. Ça ne veut pas dire qu'il soit vrai d'une façon absolue. Pour être vrai d'une façon absolue, il faut sortir de cet amour. Et alors à ce moment-là, c'est l'ami en tant que telle personne. Alors à ce moment-là, je dirais, mon jugement affectif, il est vrai, et non seulement il est vrai, mais ce qui est plus, c'est qu'il est en même temps objectif. Et il rejoint la réalité. Et c'est ce qu'on fera toujours. Je prends un autre exemple, vous allez tout de suite comprendre. Ça arrive constamment que des personnes... vous parle, par exemple, d'un étudiant qui a terminé ses études ici et puis qui cherche un emploi. Ça m'est arrivé combien de fois? Donc, celui qui va prendre cet étudiant pour l'embaucher comme professeur de philosophie dans tel ou tel établissement, écrit à son professeur avec qui il a passé sa licence et dit « Confidentiellement, dites-moi ce que représente cet étudiant. Qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que je peux compter dessus? Est-ce que vous jugez qu'il est intelligent? Alors, si on est au Canada, on mettra une norme. Est-ce qu'il est supérieur? 4%. Il y en a 4 sur 100 qui vont être intelligents. Il y en a 10% et ainsi de suite. Il y a un barème extraordinaire, n'est-ce pas? Chaque fois, ça me casse la tête, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre, où est-ce qu'il est. J'ai jamais pensé s'il était dans les 4 premiers pourcents, ou les 10, 15, 5, ainsi de suite. Alors, je dois essayer de juger sur la valeur d'un étudiant cette manière-là. Bon. Quand on fait ça, confidentiel, et si on met confidentiel, ça veut dire que essayez de me donner un jugement objectif, indépendamment de l'affection que vous avez pour lui. Moi, je réponds toujours en disant, je ne peux vous répondre qu'en fonction de la connaissance et de l'affection que j'ai pour celui-là. Et en raison de cette affection, je peux vous dire ceci. Je ne dis pas plus. Parce que je ne cherche pas à avoir un autre critère que le critère de l'affection que j'ai pour lui. Évidemment, aux examens, je ne vais pas, en fonction du critère de l'affection, mettre la note. Je vous dis ça d'avance, parce que si vous avez une mauvaise note, vous dites, ah, il ne m'aime pas du tout. Non, c'est pas ça du tout. À l'examen, au contraire, on met entre parenthèses le point de vue de l'affection pour regarder la note objective. Mais quand on doit recommander quelqu'un, est-ce qu'on peut le recommander en dehors de l'affectivité qu'on a pour lui ? On le recommande en fonction de cette affectivité. Mais il me semble que la connaissance qu'on a de quelqu'un est impliquée. Ça ne peut pas être autrement. La valeur d'une intelligence, je peux très bien jauger l'intelligence de quelqu'un en dehors de l'affectivité que j'ai pour lui. Mais la personne elle-même, c'est impossible. Je suis obligé de dire, je connais cette personne depuis 10 ans, alors que voulez-vous, peut-être, c'est très possible, jugez vous-même à un mode d'expérience. Parce que j'aime pas du tout de remplacer sa propre expérience. Quand on prend quelqu'un, on doit faire son expérience, et puis c'est tout. Et on voit si cette personne est capable de remplir cette fonction ou pas. Vous voyez, alors c'est constant, ça. Et alors, comment doit-on juger quand il s'agit de ça? Il faut être conscient qu'on juge en fonction de l'expérience qu'on a de la personne. Et non pas en fonction de ce qu'un autre m'a dit. Non, tant que possible, je laisse tomber, ça. Je vous ai raconté cette histoire qui était arrivée au seul choix, donc chez les Dominicains, et qui m'avait beaucoup intéressé, parce que ça m'avait serti, ça m'avait mis justement là aussi, dans une perspective très nette. Donc, c'était le cours de logique de première année, où ils n'étaient pas nombreux, ils étaient qu'une dizaine, 10-12, quoi. Alors, celui qui était le doyen de la faculté me disait, si vous voulez avoir le dossier des étudiants, je peux vous le passer. Le dossier des étudiants, vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire ça voulait dire tous les renseignements qu'on pouvait avoir sur lui. Et régulièrement, je disais non. Alors il disait pourquoi ? Alors je disais, j'aime mieux les découvrir moi-même que d'avoir un a priori. Et je crois que c'est vrai. Si on a des relations de professeur à étudiant, on doit avoir des relations vraies. Et donc on ne doit pas avoir d'a priori. Si j'ai un dossier, ben ça m'incline un tout petit peu, vous voyez, c'est évident. Tandis que si on n'a pas de dossier, on découvre, ça fait un peu plus longtemps, mais au fond, on découvre mieux. Et alors, je me suis trouvé devant un étudiant qui, très nettement, était tout à fait différent des autres. Je ne pouvais pas savoir qui il était, parce que je n'avais pas de dossier. Mais j'avais l'impression que c'était tout à fait différent. Au bout de 15 jours, il est venu me trouver en me disant, vous savez qui je suis, sans doute. Je dis non, je ne sais pas qui vous êtes. Je vous vois, mais je ne sais pas qui vous êtes. Alors à ce moment-là, il m'a dit, je suis converti du marxisme. Mon père était marxiste. Mon grand-père l'était. Je suis sous-prolétaire. Et je vous dis ça parce que ça fait partie de la condition dans laquelle je vivais, me disait-il. Et j'ai été converti. Et alors il a eu cette chose très très belle, que j'ai retenue parce que c'était quelque chose qui était vraiment une expérience. Le Christ a converti mon cœur, mais mon intelligence reste marxiste. Parce que j'ai vécu dans ce milieu et ma licence s'est faite avec des marxistes. C'était une licence de géographie humaine. C'est faite avec des marxistes. Je suis marxisé dans mon intelligence, je le sais. Et alors, je suis entré dans l'ordre de Saint-Dominique parce que Lefebvre disait il y a deux seules métaphysiques. La métaphysique de Saint-Thomas, pour un marxiste c'est bien de dire ça, la métaphysique de Saint-Thomas et la métaphysique de Marx. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 36, il n'y en a que deux. Ou il y a la métaphysique de Saint-Thomas, ou on est marxiste. Voilà les deux grandes manières. Lefebvre disait ça, hein. Lefebvre était un type intelligent. Pour dire ça, il faut un type intelligent, tu vois. Alors, il disait ça avec beaucoup de netteté. Et alors, lui avait suivi les cours de Lefebvre, mais j'étais converti. Elle a dit, je ne peux plus être marxiste maintenant. Je suis converti dans mon cœur, donc il faut convertir mon intelligence. Ou convertir mon intelligence, j'entre dans l'ordre de Saint-Dominique, parce que là, normalement, je recevrai un enseignement sur la métaphysique de Saint-Thomas. C'est assez joli comme manière, c'est assez logique, hein, c'est bien ça. Dieu avait converti son cœur, il avait laissé sa logique. Il voulait donc aller jusqu'au bout pour convertir son intelligence. Il avait fait cette distinction que j'ai trouvée très très forte. Le Saint-Esprit, le Christ a converti mon cœur, mais pas mon intelligence. Il me laisse le soin d'être intelligent. Et c'est très vrai, c'est toujours comme ça. La grâce convertit notre cœur, mais laisse notre intelligence. Nous sommes responsables de notre intelligence. Et alors il avait ajouté, parce qu'il avait fait des vœux pour 3 ans, et il commençait, j'ai 3 ans pour convertir mon intelligence. Du marxisme à la métaphysique de saint Thomas. J'ai 3 ans. Si au bout de 3 ans, je ne suis pas arrivé, alors à ce moment-là, je quitte l'ordre. Je redeviens ouvrier, parce que je n'enseignerai pas, je redeviens ouvrier. Je peux garder le silence en restant un chrétien. Mais je sais que mon intelligence serait faussée par le marxisme. C'était assez, assez beau, comme intuition, comme vision de la chose. Vous voyez ? Et j'ai vu là combien, si j'avais regardé le dossier avant, il n'y aurait pas eu le contact direct qu'on a eu. Alors vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, je faisais le cours pour lui. Parce qu'il venait toujours avec ses objections marxistes, c'était extraordinaire. C'était très intéressant du reste. Parce qu'il venait avec ses objections marxistes, avec son Lénine qui sortait comme on aurait sorti Aristote ou qu'on aurait sorti saint Thomas. Il venait, c'était toujours l'autorité, c'était toujours Lénine. Lénine, ça venait tout le temps. Mais il le vivait, ça, il l'avait dans sa peau, ou il l'avait plutôt dans son intelligence. Et dans son intelligence, il avait cette dialectique marxiste qui était là, constante, constante. Alors, je crois que c'est très important de bien discerner le jugement que nous avons sur une personne à partir de l'expérience que nous avons. Et la vérité de ce jugement est en fonction de nos expériences. C'est pas en fonction de ce qu'elle est. Je juge en fonction de mes expériences. Voilà ce que je dirais. Je peux pas dire autre chose. Je juge en fonction de l'amour que j'ai pour cette personne. Avec l'amour que j'ai pour cette personne, je peux vous dire ça. Voilà, j'ai découvert des tas de choses que j'avais pas découvert avant. Donc c'est l'amour que j'ai pour cette personne qui est mesure du jugement que je porte. C'est l'expérience que j'ai cette personne qui me permet de dire ça. Tandis qu'autrement, je retomberai dans un jugement qui serait spéculatif et qui ne serait plus un jugement affectif. Mais je crois que c'est très important cela. C'est très important au point de vue, à tous les niveaux, ça. Vous voyez, constamment. C'est la réflexion constante entre les relations humaines. Vous pouvez avoir des relations humaines en fonction de quelqu'un que vous aimez comme artiste. Mais vous le découvrez comme artiste. Vous pouvez très bien ne pas avoir du tout d'affection pour lui. Comme vous découvrez quelqu'un au point de vue intellectuel. Il est très intelligent, ça m'intéresse, bon, très bien. Mais au point de vue reste, ça m'est égal. Mais on fait ces discernements. Et c'est là où je crois qu'il y a un critère de vérité propre à la connaissance spéculative, au jugement d'existence. Un critère de vérité propre à la connaissance affective. Un critère de vérité propre à la connaissance artistique. Vous voyez ? Et là, on pourrait aller plus loin, connaissance politique, et ainsi de suite. Vous voyez ? Bon, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer la dernière fois. Hein. Parce qu'essayer de comprendre ces différents critères. Alors, vous voulez qu'on pousse encore cette question des critères ? Parce qu'au fond, on en a vu pas mal déjà. Moi, j'ai envie de m'arrêter là-dessus. N'est-ce pas ? Oui ? Une opposition entre le jugement. Oui, oui, ça peut se faire une certaine différence. C'est parce que j'aime beaucoup cet individu, cette personne, que je découvre en elle des quantités de choses que je sais qu'un autre ne découvrira pas. Pourquoi ? Parce que l'amour peut me faire découvrir des choses à l'état virtuel. Oui ? Objectivement, l'état de fait. L'amour me permet d'aller plus loin. Et donc, il peut y avoir un hiatus. Ce n'est pas une erreur, c'est tout simplement une divergence, vous voyez. Ce n'est pas une opposition au sens rigoureux. C'est une divergence. Parce que l'amour me permet de découvrir des virtualités que l'autre ne découvrira pas. Ça me semble très très net quand on dit un jugement objectif au point de vue psychologique, vous voyez bien ce que ça veut dire. C'est court. C'est très court. Quand vous connaissez quelqu'un et que vous voyez le jugement affectif, le jugement psychologique qu'on donne, vous voyez que c'est très court. Il y a des tas de choses qu'ils n'ont pas vues. Vous voyez ? Bon. Alors, vous avez, si vous continuez de voir la diversité de ces jugements, vous voyez que vous pouvez avoir encore, jugement, donc, jugement d'existence, jugement affectif, jugement artistique, jugement mathématique, jugement scientifique. Alors, le critère mathématique, le critère d'une connaissance scientifique, le critère d'une connaissance philosophique lorsque je saisis les principes. On l'avait déjà vu, ça. Je vous avais dit que c'est particulièrement difficile. Et c'est vrai, c'est particulièrement difficile. Parce que le critère du jugement, quand je saisis, par exemple, au point de vue métaphysique, l'ousia, la substance, et que je dis la substance est principe selon la forme de ce qui est, et je peux dire ce principe que je saisis dans un jugement, c'est vrai. Donc il y a une vérité. Quand je saisis un principe propre, il y a une vérité. Autrement, je dirais, je ne sais pas, je tâtonne, je crois découvrir, mais je ne sais pas encore. Tandis que quand j'ai découvert, je peux dire c'est vrai. Quel est le critère de cette vérité ? Ce n'est pas la réalité existante. Parce que la réalité existante, elle est un critère lointain, cette vérité, mais pas un critère immédiat. Ce n'est pas le critère propre. Et c'est ça qui fait la difficulté au point de vue philosophique. Surtout quand vous êtes en face de psychologues qui veulent comprendre exactement et mesurer exactement. Vous voyez, quand vous saisissez un principe propre au plan philosophique, vous saisissez à l'intérieur même de la réalité, par l'analyse que vous faites, vous saisissez quelque chose de fondamental. La substance, elle existe fondamentalement dans l'homme. Mais je ne la vois pas. Alors si je prends l'homme existant comme mesure de mon principe, c'est lointain, c'est pas propre, c'est fondamental. Et donc c'est pas la mesure. Il faut donc me demander quelle sera la mesure de mon jugement qui saisit un principe propre. Ce principe est évident dans la mesure même où je le saisis. Il est évident. S'il est évident, ça veut dire qu'il ne cherche pas en dehors de lui un critère de vérité. C'est le propre d'être évident. Ce qui est évident, c'est ce qui ne cherche pas en dehors de lui un critère de vérité. C'est quelque chose qui s'impose à mon intelligence et qui s'impose immédiatement à mon intelligence, sans intermédiaire. Donc si ça s'impose immédiatement à mon intelligence, sans chercher en dehors un critère de vérité, il faut donc que ce soit le principe lui-même qui soit critère de vérité. Alors à ce moment-là, on vous dira tout de suite, mais alors, vous faites une pétition de principe. Vous dites, je saisis ce principe, et ce principe est vrai parce que je le saisis. Ce principe est évident pour moi, et je vous dis que ce principe est vrai parce que je le saisis. Ça arrive, des gens qui disent ça, vous savez. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là ? Ce principe, il est évident. Je vous donne le fait de saisir l'acte, ou saisir la substance, ou saisir la nature, ou saisir... Tous les principes philosophiques sont ça. Et c'est pas commode. Hein? Alors, j'ai quand même une référence lointaine, ce qui montre que ce n'est pas une pétition de principe. Dans une pétition de principe, il n'y a pas de référence lointaine. Et la référence dernière, la réalité existante, est très importante. Et je saisis cette réalité, je saisis ce principe grâce à l'induction. Alors, l'induction m'aide aussi, la voie d'accès par laquelle j'ai saisi ce principe, est une référence. Puisque je peux vous conduire par ce sentier, et vous verrez, si vous êtes intelligent, évidemment, je suis bien obligé de l'ajouter, n'est-ce pas ? Si vous êtes intelligent, vous verrez. Mais si vous faites cette montée, vous verrez ce panorama. Vous ferez cette chose extraordinaire. Vous découvrirez ce principe. Mais c'est une découverte. Alors, il ne peut pas y avoir un critère extrinsèque. Il ne peut y avoir donc qu'un fondement dernier. Et ce fondement dernier, c'est la réalité existante. Il peut y avoir comme autre critère la voie d'accès, qui n'est pas un vrai critère, qui est encore extrinsèque. La voie d'accès est extrinsèque au saisi. Mais c'est le principe lui-même qui s'impose. Je ne vois pas d'autre possibilité. Si vous trouvez autre chose, vous me le direz. Je ne vois pas d'autre possibilité. Je peux prendre encore un troisième principe, un troisième chose, vous voyez. Peut-être, vous essayez, hein, quand on ne peut pas saisir un critère de vérité extrinsèque au contenu même de ce qui est exprimé. Parce qu'en fond, c'est le cas. J'exprime un principe, j'essaie de l'exprimer de la manière la plus adéquate qui soit à la réalité, et dans la mesure même où je l'exprime, je saisis cette réalité. Et je dis, c'est ça. Parce qu'un principe, il est saisi par l'intelligence, et l'intelligence peut le dire. Et donc la saisie du principe correspond bien au principe lui-même. C'est le cas très très net, où la saisie et la réalité saisie sont adéquates. Et c'est pour ça que je ne peux pas chercher en dehors du principe. Tandis que dans un jugement d'existence, la réalité existante est plus que ce que j'en dis. Mais pas au niveau du principe. C'est le propre du principe. Ça. Si vous disiez que la réalité, qu'il y a au-delà du principe quelque chose, vous retomberiez dans la réalité existante. Ce ne serait pas le contenu du principe. Donc il faut bien comprendre que le principe s'impose à mon intelligence par lui-même. Et il possède en lui-même son propre critère de vérité. Mais alors, je prends comme confirmation, pas comme critère de vérité, comme confirmation la réalité existante. Je prends comme confirmation la voie d'accès. Et je prends comme critère de vérité encore, comme confirmation, pas comme critère, la fécondité de ce principe. Je crois que c'est les trois. La fécondité du principe. C'est-à-dire qu'un principe, normalement, quand il est un véritable principe, il est source d'autres choses qui m'aident à mieux comprendre, à mieux saisir. Vous voyez ? Quand je saisis la substance et que je reviens à la réalité, j'ai une vision plus nette sur la réalité. Quand je saisis la substance par rapport à l'homme, je peux mieux définir ce que c'est que la personne humaine. Voilà toute la fécondité. Et la saisie de la personne humaine, donc la manière dont la substance se trouve réalisée en moi m'aide à mieux comprendre ce que c'est que la substance. Alors il y a un va-et-vient, vous voyez, entre quelque chose que je constate et ce principe. Et petit à petit, j'arrive à amenuiser comme ça ma saisie du principe, et le principe, dès le point de départ, s'impose, mais il possède en lui-même sa propre mesure. Je ne crois pas qu'on puisse, ce serait la destruction du principe. C'est ça qui est très curieux. Mais prétendre qu'il y ait une mesure de vérité en dehors du principe, ce serait relativiser le principe. Et en relativisant le principe, ce n'est plus un principe. Donc là, vous montrez par confirmation, par l'absurde, ça ne peut pas être autrement. Tandis qu'au contraire, mon jugement d'existence porte sur une réalité contingente. Donc je peux le relativiser, ce n'est pas gênant. Et je montre que cette réalité contingente, dans la mesure même où elle existe actuellement, peut être mesure de mon jugement. Tandis que dans l'un principe, je ne vois pas. Chercher, ça vaut la peine de chercher ça. C'est une des choses difficiles au point de vue critique. C'est une chose intéressante à voir. C'est une chose qui est difficile et qu'il faut être lucide. Il faut être lucide, il faut voir que lorsqu'il s'agit d'un principe métaphysique, je ne peux pas découvrir un au-delà du principe métaphysique. Alors, je pourrais peut-être donner comme dernier critère ou comme dernière confirmation le point de vue d'un jugement de sagesse. Mais ça fait partie de la fécondité. Ça fait partie de la fécondité. Ça fait, parce que c'est grâce à ce principe que je peux atteindre l'existence d'un être premier, et à partir de l'existence d'un être premier, j'atteins le point de vue de la création et j'ai mes jugements d'existence. Bon, alors je n'insiste pas plus. Je vois simplement, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'un jugement de sagesse. Quelle est la vérité d'un jugement de sagesse. Puisque je vois que la saisie d'un principe me renvoie à un jugement de sagesse. Alors, nous allons essayer de comprendre cela, parce que c'est intéressant au point de vue métaphysique de bien comprendre la différence d'un principe propre. Qu'est-ce que c'est qu'un principe propre et un jugement de sagesse ? Parce qu'on fait des quantités de confusions. Et c'est surtout dans l'ontologisme qu'on fait ces confusions. Donc c'est là où on ferait la critique au point de vue philosophique de l'ontologisme. Alors pensez à l'ontologisme, pensez à Malebranche, pensez à Descartes, pensez à Hegel. N'est-ce pas ? Quelques grands ontologistes. C'est ça l'ontologie. L'ontologie, c'est au fond un manque de discernement entre la forme intentionnelle ou l'intentionnalité que je possède à l'intérieur de ma connaissance et la réalité existante. Je confonds les deux. Et donc je passe de l'un à l'autre et je passe donc toujours de l'intentionnalité à la réalité. Parce que de fait, l'intentionnalité est plus proche. C'est ça l'ontologisme. Et de façon générale, c'est ça. On peut dire que c'est cette manière-là dont on voit le point de vue de l'ontologisme. Alors, dans le point de vue du principe propre, le principe propre, je prends un principe propre, je prends l'ousia pour que vous puissiez arriver petit à petit à bien réfléchir. Donc, la substance. La substance, au point de vue métaphysique, qu'est-ce que c'est ? La substance est cause selon la forme de ce qui est. Là, j'énonce de cette manière le premier principe de la philosophie première. Je peux faire la même chose pour l'acte. Qu'est-ce que c'est être en acte et cause selon la fin de ce qui est. Donc je suis en face des deux causes ou principes. Donc, je suis là en face d'un principe propre. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement de sagesse ? Un jugement de sagesse est un jugement qui se prend. Donc, principe propre qui implique un jugement. Toujours, dès que je dis un principe, c'est dans un jugement. Tandis que dans un jugement de sagesse, le jugement de sagesse porte sur une conclusion. On voit tout de suite la différence. Le jugement de sagesse porte sur une conclusion et pas sur un principe. Si ça porte sur une conclusion, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme jugement de sagesse ? Dans tout être créé, il existe une distinction réelle entre l'essence et l'existence. Je prends exprès des choses très classiques, c'est pas pour que vous puissiez le voir tout de suite. Dans tout être créé, il existe une distinction réelle entre essence et existence. Ça, c'est un jugement de sagesse. On en a fait un principe propre. Wolff en a fait un principe propre. Dans tout être créé, il existe une distinction réelle entre essence et existence. Donc, c'est une conclusion, c'est un jugement de sagesse. Ce jugement de sagesse, il part de quoi ? Il part d'une certaine connaissance que j'ai de l'être premier. De l'être premier en tant que créateur. Et je regarde la créature. Et je juge la créature dans la lumière du créateur. Juger la créature dans la lumière du créateur, c'est un jugement de sagesse. C'est une conclusion. Vous voyez, quand je dis en tout être créé, c'est bien la structure de l'être créé. En tout être créé, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Je montre la différence qui existe entre essence et exister. Dans toute créature, il y a une crevasse, il y a une fêlure. Il y a la fêlure entre l'essence et l'existence. Et s'il y a une fêlure entre l'essence et l'existence, il y a justement une possibilité de les écarter d'une certaine manière. Vous voyez ? Donc, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Cette distinction réelle entre essence et existence vient tout simplement de ce fait, et je la prouve, puisque c'est une conclusion. Seul dans l'être créé, je veux dire seul dans l'être premier créateur, l'exister est son essence. Pour toutes les autres réalités, en dehors de l'être premier, l'exister est participé. Donc il est distinct de son essence. Vous voyez la conclusion immédiate. Seul dans l'être premier, l'exister, seul dans l'être premier, l'exister est son essence. Puisque l'être premier est l'ipsum esse subsistens. L'être premier, c'est celui qui subsiste dans son existence. Donc, seul dans l'être premier, l'exister est son essence. En dehors de l'être premier, l'exister est toujours participé. Donc, il est distinct de l'essence. Il est participé. Vous voyez que si je ne fais pas... Alors, quelle est la vérité d'un jugement qui porte sur une conclusion de sagesse ? La vérité, c'est très simple, c'est comme la vérité toute conclusion. Puisque toute conclusion dépend de prémices, donc de propositions antérieures, puisque toute conclusion dépend de prémices, cette conclusion sera vraie dans la mesure où elle sera conforme à ses prémices. Et donc, cette affirmation dans tout être créé, une distinction réelle entre essence et existence, la vérité de cette proposition dépend des propositions antérieures, c'est-à-dire de l'ipsum esse subsistens et de toutes les réalités qui sont après l'ipsum esse subsistens. Bon, je crois que c'est facile à comprendre, ça. C'est facile à comprendre parce que c'est tout simplement le type de vérité d'une conclusion. C'est beaucoup plus facile de saisir la vérité d'une conclusion que la vérité d'un principe. C'est pour ça qu'on serait tenté de dire il n'y a pas de vérité de principe, il n'y a qu'une vérité de conclusion. N'est-ce pas ? Parce que c'est beaucoup plus évident. La vérité d'une conclusion, elle s'impose à moi. Et d'une certaine manière, elle a une certitude plus grande. Vous voyez ? Elle a une intensité de certitude moins grande, mais au point de vue de la conscience, elle a une certitude plus grande, plus manifeste. C'est plus manifeste. Et donc, c'est plus facile à comprendre. Je la saisis plus. Je crois que tout esprit un peu intelligent saisit la vérité d'une conclusion. Mais pas tout le monde saisit la vérité d'un principe. Ça, c'est un fait. Des quantités, tout le monde. N'importe quel... Enfin, il suffit qu'on soit un tout petit peu délié au point de vue de son intelligence pour saisir la vérité d'une conclusion. Parce que la vérité d'une conclusion, elle est au niveau du raisonnement. C'est pour ça que si facilement on accumule les conclusions et on oublie les principes. C'est un fait. Alors en accumulant les conclusions, on reste à un niveau de définition. Ça vient une définition. Ça vient une thèse. Et on oublie que c'est une conclusion qui dépend de principes. Alors, ce que je veux montrer ici, c'est que cette conclusion de sagesse, si je l'identifie à un principe propre, voyez, à ce moment-là, je fais une confusion complète, parce que le principe propre, il est premier, je ne peux pas aller au-delà. La réalité dont je suis parti, quand je dis dans toute réalité créée, il y a une distinction entre essence et existence. Je ne suis pas parti du principe propre, je suis parti d'une réalité existante. Et je suis parti de la manière dont cette réalité première existait. Et ce n'est pas du tout une conclusion d'un principe propre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et que ce principe propre a sa vérité propre, qui est distincte de la vérité d'une conclusion. Je crois que là, vous pouvez quand même comprendre un peu la différence qui existe entre la vérité au niveau d'un principe et la vérité au niveau d'une conclusion. Alors il y aurait la dernière chose à regarder, la vérité d'un axiome. Voilà, ça, la vérité d'un axiome. Il faut respecter la fleur. c'est le respect de l'autre. Alors, il faut regarder l'action. Quelle est l'action ? L'action première. L'action première, c'est le principe de non-contradiction. Quelle est la vérité du principe de non-contradiction ? C'est très intéressant à voir ça. Quelle est la vérité d'un axiome ? L'axiome de non-contradiction, du principe de non, qu'on dit du principe de non-contradiction, on devrait dire l'axiome de non-contradiction, si on était tout à fait correct. Parce que l'axiome de non-contradiction n'est pas un principe, c'est une loi. C'est une loi de l'intelligence, c'est pas du tout un principe propre. C'est une structure profonde de la vie intellectuelle. La structure profonde de la vie intellectuelle, de mon intelligence, c'est que je ne peux pas affirmer et nier en même temps, sous le même point de vue, la même réalité. Affirmer et nier sous le même point de vue et en même temps, une même réalité, c'est contradictoire. Vous voyez que c'est toute une structure de la vie de l'intelligence. C'est une loi qui exprime la différence qui existe entre l'affirmation et la négation. Donc, y a-t-il une vérité dans ce principe ? Ou est-ce que je suis tout simplement en face d'une structure de fait de la vie de l'intelligence ? Et donc, il suffit de comprendre cette structure de la vie de l'intelligence, il faut pas, c'est pas une question de vérité. Il n'y a pas de vérité, puisque il y a aucun contenu. La vérité implique un certain contenu. Il n'y a pas de contenu. Affirmer et nier en même temps, sous le même point de vue, la même réalité, c'est impossible. Oui. Alors, je crois qu'on ne peut pas dire au sens rigoureux qu'il y a une vérité. On peut dire tout simplement que c'est une loi de la vie de l'intelligence que je dois saisir comme quelque chose d'évident à partir de la différence qui existe entre affirmation et nier et négation. Bon, vous réfléchirez là-dessus. Et si vous avez des questions, vous les poserez. Il y aura toute une série.
Ce matin, je n'ai pas pensé.
Oui, c'est ça. Très bien.
Donc, j'ai organisé.
Très bien. J'ai aussi. On aura deux couleurs différentes.
Ah, très bien. Merci.